C'était notre programme musical de nuit. Bon réveil avec France Musique. Tout de suite, Musicopolis, proposé par Anne-Charlotte Raymond.
Musicopolis. 1945, la libération, et après. Chapitre 5, début de l'après-guerre, les musiciens et le public, les différents courants, le langage, grande question. Pour le dernier chapitre de cette série, après avoir évoqué dans les précédents épisodes l'état du pays, les problèmes matériels qui se posent aux musiciens comme à toute la population française, l'épuration qui se règle difficilement et qui impacte beaucoup la vie des concerts et des théâtres, je voudrais aborder la question du langage musical. A-t-il évolué depuis l'avant-guerre? Et si oui, comment? Après 4 ans d'occupation, après tant de massacres, de bombardements, après la Shoah et la découverte des camps d'extermination, quelle musique composer et écouter? Le 25 mars 1945, la BBC diffuse la création de Figure humaine de Francis Poulenc, composée en 1943 sur les poèmes de Paul Éluard distribués sous le manteau. C'est ainsi que l'œuvre est entendue pour la première fois en France, et notamment par Georges Auric, qui en rend compte quelques jours plus tard dans les Lettres françaises. Avec ces pages, écrit Auric, leur auteur a atteint le point extrême de son art. Le charmant, le sensible, le tendre Poulenc que vous connaissiez, c'est toujours lui que vous trouverez ici. Et ce n'est cependant plus tout à fait le même. À la mesure de son temps, il a soudain gagné une humanité qui vous surprendra peut-être, mais que vous reconnaîtrez avec moi. Voici enfin, écrit Auric à propos de Figure humaine de Poulenc, un art qui dépasse les conversions, les préjugés, les formules d'un pseudo-modernisme dont nous avons mesuré la vanité. Que m'importe ici le style harmonique de Poulenc, sa position au devant des savantes théories esthétiques qu'à droite comme à gauche nous voyons encore s'opposer. Les 82 pages de Figure humaine, je suis assurée qu'elles se placent assez loin de tant de vaines controverses. Fin de citation. Eh bien justement, ces controverses qui s'épanouissent en 1945, quelles sont-elles? Pour décrire les controverses musicales qui ont lieu en France au printemps 45, il faut d'abord se remettre dans l'ambiance de l'époque. Au micro de Jean-Pierre Derrien en 2002, Pierre Boulez se souvient de la période qui a suivi la libération. Il avait 20 ans en 1945.
Après la guerre, très curieusement, c'est un peu, ça m'a fait l'impression comme si on retrouvait l'avant-guerre, c'est-à-dire comme si on voulait retrouver l'avant-guerre, exactement. Vous savez, quand on a retrouvé le beefsteak, on a dit « Ah, les beefsteaks sont bons comme avant-guerre ». Puis quand on a retrouvé les petits pois, on dit « Ah, les petits pois, c'est comme avant-guerre ». C'est-à-dire la nourriture, les vêtements, tout ça était comme avant-guerre. Et les milieux musicaux ont voulu aussi, disons, faire comme avant-guerre, comme si la guerre n'avait pas existé. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas eu 5 ans, vraiment, d'évolution souterraine, en tout cas, et d'une nouvelle génération qui, comme la mienne, enfin, telle à laquelle j'appartiens, et qui n'avait pas du tout envie de revenir avant-guerre, parce que d'abord, avant-guerre, elle n'avait pas connu.
Une fois posé le décor et l'ambiance de l'époque, nous devons faire la liste des personnages qui alimentent les controverses. Le premier, par ordre d'entrée en scène, est sans aucun doute Stravinsky. Depuis l'entre-deux-guerres, c'est lui qui domine la scène musicale française, musicalement et intellectuellement. Même si quelques autres compositeurs, notamment du groupe des Six, sont très présents avant-guerre, c'est Stravinsky qui est une sorte d'idole indépassable et qui fait même figure de maître à penser. Stravinsky est donc adulé par le milieu musical français. Mais au fil des années, son style a changé pour évoluer vers le néoclassicisme, c'est-à-dire un retour vers des formes et des procédés hérités du passé. C'est là que la jeune génération, dont fait partie Pierre Boulez, réagit négativement.
En effet, on admirait beaucoup le Stravinsky des grands ballets, de l'Oiseau de Feu, surtout à partir de Petrushka jusqu'à Nos. La symphonie instrument avant était beaucoup moins connue, mais Nos, oui, et même la symphonie de Psaume. Mais tout ce qui était période néoclassique, alors qui enchantait nos chers Français, nous n'en voulions pas du tout. Et alors, on avait été tout de même aiguillés par Messiaen qui, sans faire de prosélytisme, parce que ce n'était pas du tout son genre, mais Messiaen aimait détester aussi cette période néoclassique.
Dans cet extrait des Danses concertantes de Stravinsky, œuvre de 1941, on entend le style néoclassique, honni par la jeune génération de musiciens, dont Pierre Boulez. Au passage dans l'entretien, Boulez a mentionné le nom d'Olivier Messiaen, un autre personnage qui apparaît dans le paysage musical de la Libération et également dans les controverses. Messiaen est rentré de captivité en 1941 et il a été nommé professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris. Dans cette classe, et aussi dans les cours privés qu'il donne à quelques élèves choisis, plus que des cours d'harmonie, il donne à ses élèves des bases d'analyse et il traite également du langage musical du passé et du présent. Sa musique, lorsqu'elle est jouée, est très bien accueillie par le public comme par la critique.
Thank you.
L'Ascension d'Olivier Messiaen, donnée par l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire sous la direction de Charles Munch le 4 février 1945, est très applaudie. Pour Roland Manuel, dans Combat, il s'agit là d'une musique dense, ardente et tendue qui témoigne d'une invention soutenue et dont la veine mélodique est d'une richesse qui enchante l'oreille et confond l'imagination. De son côté, Poulenc écrit à son ami Darius Milhaud, qui est encore aux États-Unis, « L'Ascension de Messiaen est l'événement musical le plus important. Tu retrouveras en effet une secte fanatique autour de ce musicien, d'ailleurs remarquable, en dépit d'un jargon littéraire impossible. Les messianistes sont très « against Stravinsky last period », contre Stravinsky dernière période. Pour eux, la musique d'Igor s'arrête au sacre. Ils ont sifflé les danses concertantes que j'adore. Cela crée de la vie, c'est déjà cela.
Et alors, en effet, il y avait la classe Messiaen qui était assez remuante à l'époque. Et surtout, il y avait une certaine manifestation comme contre l'avant-guerre, disons. Et il y a eu une confusion après, c'est anecdotique bien sûr, mais enfin, la première manifestation contre Stravinsky a été au concert de la Pléiade. Les concerts de la Pléiade étaient des concerts organisés par André Scheffner. Il y avait une œuvre de Dalla Piccola et puis une œuvre de Stravinsky. Je ne me souviens plus si c'était les danses concertantes ou quelque chose comme ça. Nous, pour vraiment manifester notre goût et notre choix, nous avons fait un triomphe à Dalla Piccola qui ne le méritait pas. Du reste, c'était une œuvre de 1937 assez anodine finalement. Et puis, on a manifesté très violemment contre Stravinsky, ce qu'il ne méritait pas non plus, parce que c'est une œuvre anodine aussi et qui ne méritait pas une telle fureur.
Après la séance du concert de la Pléiade où les jeunes musiciens de la génération de Boulez ont hué les danses concertantes de Stravinsky, suivent d'autres manifestations bruyantes lors d'autres concerts Stravinsky. C'est que, je l'ai mentionné dans un précédent chapitre de cette série, la radiodiffusion avait organisé sur tout le premier semestre 1945 un grand cycle consacré aux compositeurs russes, qui était, soit dit en passant, naturalisé français depuis 1934, avant de devenir américain, justement, en cette année 45. En 7 festivals, ce qui veut dire à l'époque des concerts entièrement consacrés à un seul compositeur, à peu près toute la musique du grand homme devait être entendue, non seulement au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, mais dans toute la France et même au-delà, grâce à la radio. Écoutez sur le site de Musicopolis le mouvement entier avec les hurlements d'enthousiasme du public du Théâtre des Champs-Élysées qui applaudissait la prestation de Monique Haas dans le Capriccio de Stravinsky le 8 février 1945 lors du deuxième concert du cycle Stravinsky de la radiodiffusion française. Un mois plus tard, lors du troisième concert, l'Orchestre National joue les impressions norvégiennes du même Stravinsky, encore une œuvre de style néoclassique qui provoque donc gros chahut et moult huées de la part des jeunes. « À la suite de la création française des impressions norvégiennes de Stravinsky à la radio en mars 1945, une polémique va faire rage. André Jolivet, ayant déclaré qu'il en avait assez de Stravinsky, le critique Roland Manuel répond par un article titré « Une nouvelle querelle des bouffons », dans lequel il stigmatise les jeunes compositeurs André Jolivet, Serge Nigg, Jean-Louis Martinet. Deux jours plus tard, dans un article titré « La querelle Stravinsky », Serge Nigg lui répond par une question. Devant les problèmes musicaux alignés devant chaque compositeur, où trouver les germes d'un avenir régénérateur, demande-t-il. Plutôt que de continuer dans le courant néoclassique, il semble proposer de s'engager dans celui de la musique atonale. À côté de Stravinsky et de Messiaen, un troisième compositeur occupe les conversations en cette année 1945. Et celui-ci va engager l'avenir de la musique pour longtemps, c'est Arnold Schoenberg. Comme le rappellent les critiques de 1945, la musique de Schoenberg a connu une certaine notoriété juste après la Première Guerre mondiale, avant de disparaître des radars. Mais au lendemain de la libération, elle va revenir en grâce, et cela en particulier par la volonté d'un homme, un compositeur dévoué à la cause de la musique de 12 sons, René Leibowitz. Leibowitz se démène, il écrit des articles, des livres, il donne des cours. Si l'on en croit les commentateurs, il pousse l'ardeur de ses convictions jusqu'au fanatisme et par conséquent, il suscite des réactions violentes. Mais au moins, la cause à laquelle il s'est dévoué progresse, on organise des concerts dont on parle à la radio. Voici un extrait savoureux du magazine des arts diffusé le 3 février 1947.
Eh bien, à votre avis, voulez-vous nous dire quelles leçons on peut tirer de cette audition ?
Personnellement, je crois qu'il n'y a pas une grande leçon à tirer de cette audition, car ça s'adresse à un public extrêmement restreint de gens très avertis en technique musicale. Et d'ici à ce que cela se répande dans le peuple, il passera beaucoup d'eau sous les ponts, je crois.
Quel que soit l'avenir de ces recherches musicales, elles passionnent les mélomanes. Les querelles naissent, analogues à celles que la peinture connut au temps des fauves. N'est-ce pas un fragment de l'intermezzo pour orchestre de chambre par Humphrey Seal que nous entendons ?
Écoutez plutôt ce morceau typiquement systématique. Une ouverture de concert composée impromptue par le maître français de l'école de musique atonale, René Leibowitz.
Je n'ajouterai rien. Mais il faut retenir en dehors de toute polémique l'ardeur de l'équipe de Leibowitz, de tous ceux qui cherchent en dehors des sentiers battus.
Oui, et moi, je retiendrai aussi la jolie robe de la fanatique violoniste qu'est Francine Villers.
Oh, quelle frivolité! Nous étions là pour suivre Schoenberg et les siens sur ce point inconfortable où, selon Michel Léris, ils n'ont pas craint de situer la musique. Sur la crête même du vertige, hérissée de dents de scie.
Ah, et maintenant, il est temps de nous quitter. Mais je vous donne rendez-vous pour continuer de parler avec vous des arts à Paris.
Entendu, à la semaine prochaine.
Thank you.
Les cours de René Leibovitz sur la musique de 12 sons, où, dit Pierre Boulez, on passait sa matinée à compter jusqu'à 12, et les concerts qu'il organise après la Libération ont certes suscité l'ennui de certains. À propos du concert dont il était question dans l'archive que nous écoutions à l'instant, Boulez parle même d'œuvres qui, je cite, « battaient les records de l'emmerdement emmerdatoire ». Mais en même temps, Leibovitz a remis sur le devant de la scène une technique d'écriture, la série, qui va occuper de nombreux musiciens, dont Boulez, pendant plusieurs décennies. Voici donc comment se présente le paysage musical en France juste après la Libération. À la radio, bien sûr, on entend toutes sortes de musiques, il y en a pour tous les goûts. Dans les concerts classiques, une majorité d'œuvres dites « du répertoire » voisinent avec quelques nouveautés. Les prochaines années verront s'affirmer les courants qui correspondent aussi plus ou moins aux différentes générations en présence. Celle de Stravinsky et du groupe des Six est plutôt néoclassique. La génération toute fraîche arrivée, des jeunes dans leur vingtaine, dont Pierre Boulez, se tournent en majorité vers la musique sérielle, la musique de 12 sons. Quant à la génération intermédiaire, celle de Messiaen et du Dutilleux, elle est plus indécise. Élevée durant l'entre-deux-guerres, ceux qui ne veulent pas faire la musique de leurs aînés ni celle de 12 sons doivent trouver leur propre voie. Les années 1945 et suivantes voient la composition et la création de nombreuses œuvres, très différentes les unes des autres. Au hasard, le Requiem de Duruflé, qu'on entendait à l'instant, les Mamelles de Tirésias, de Poulenc, la Turangalila symphonie de Messiaen ou la deuxième sonate pour piano de Pierre Boulez. Les courants sont tellement divers qu'ils font dire à Roland Manuel « Nous sommes passés de la tour d'ivoire romantique à la tour de Babel ». Néanmoins, aucune idéologie à présent ne peut plus interdire et exclure les musiciens. Désormais, ce sont d'autres lois qui dicteront les règles du jeu, mais ça, c'est une autre histoire. Liberté, le dernier mouvement de figure humaine de Francis Poulenc sur un texte de Paul Éluard, The Sixteen, dirigé par Harry Christophers. La réécoute et le podcast de toute la série 1945 sont bien sûr sur francemusique.fr et sur l'appli Radio France. Sur la page Musicopolis de France Musique, vous trouverez le programme détaillé, les liens pour lire les articles de journaux d'époque et quelques extraits musicaux en version extra large. Grand merci à Lina et spécialement à Marie Chauveau. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Sébastien Royer pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Côme Jocteur Montrosier pour les recherches et le site.
France Musique, partenaire d'Opéra Magazine. En couverture du numéro de juillet-août, le chef d'orchestre Daniele Rustioni. Du cœur d'enfant de la Scala à la fosse du Metropolitan Opera, le parcours de Daniele Rustioni poursuit son enrichissement artistique dans les répertoires symphoniques et lyriques. Son engagement de directeur musical à l'Opéra de Lyon s'est terminé en mars dernier avec la Forza del Destino, œuvre qu'il reprend le 20 juillet au Théâtre Antique d'Orange. À retrouver dans le dernier numéro d'Opéra Magazine en kiosque le 3 juillet.
France Musique. Bonjour, une nouvelle journée d'été commence sur France Musique avec de nombreux rendez-vous musicaux. Maintenant, voici Suzanne Gervais pour Musique Matin.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce vendredi 4 juillet sur France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Au programme ce matin, notre Tour de France des festivals nous emmène dans la forêt, au Festival des Forêts à 7h40, direction Compiègne. Nous serons en ligne avec le pianiste Lucas Debargue, invité d'honneur de cette édition 2025. À 7h50, des cadeaux à gagner, comme chaque matin. N'hésitez pas à tenter votre chance au jeu de l'été. À 8h, le journal. À 8h10, le nouveau rendez-vous du vendredi. Un rendez-vous lyrique qui désingue les idées reçues sur l'opéra. C'est la chronique « Opéra et préjugés » de Jean-Philippe Thiélé. À 8h20, maxi classique par Max Dosolm, il y a 33 ans tout pile, disparaissait. Astor Piazzolla, l'occasion de revenir sur les liens entre le roi du tango et la musique de Jean-Sébastien Bach. Et enfin, à 8h30, nous recevrons notre invitée, la violoniste Fanny Stefanelli, qui a pris son envol après 10 années au sein du Spirit Tango Quartet. Nous parlerons virage dans une carrière musicale, esprit folk, violon électrique. Et oui, ça fait quoi de brancher son instrument? Voilà, vous avez le programme. Je vous souhaite un bon début de journée au soleil. Et le soleil brille sur Hollywood et ses rêves de gloire. Le soleil brille aussi sur France Musique, avec l'ouverture de La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle, musique de Justin Hurwitz.
France Musique. Le 7h39 de Suzanne Gervais. Musique Matin.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 7h35. Alors parmi les émissions de l'été, il y a les sagas musicales à retrouver chaque matin de 9h à 10h30. Cette semaine, Corinne Schneider poursuit le voyage, le périple pédestre de Raphaël Pichon et des musiciens de l'ensemble Pygmalion dans les pas de Bach sur les chemins d'Allemagne. 120 km à vitesse humaine, rythmé par la musique du cantor. Rendez-vous à 9h donc. Allez, pour un réveil dans la joie, eh bien quoi de mieux qu'un brand bourgeois. Et ce thème entraînant qui revient, la recette pour un bon début de journée, eh bien c'est peut-être la bonhomie du premier mouvement Allegro du 5e concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, interprété par Emmanuel Pahut et les solistes baroques de Berlin, dirigé par Rainer Kaussmaul. Il est 7h40, c'est l'heure du Tour de France des festivals. Et ce matin, nous sommes dans l'Oise, au cœur de la forêt de Compiègne, 5e forêt domaniale de France par sa taille. Et depuis 3 décennies, la musique y résonne chaque été. La 33e édition du Festival des Forêts a commencé le 21 juin, elle s'achève le 12 juillet et met à l'honneur le pianiste Lucas Debargue. Il est au téléphone avec nous ce matin. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Lucas Debargue, vous avez passé votre enfance, une partie de votre enfance non loin de Compiègne. Quels sont vos liens peut-être avec cet endroit, avec ce festival éventuellement, et puis surtout avec la forêt de manière un peu plus générale?
Alors, c'est vrai que j'ai grandi à Compiègne et plus généralement dans la région compiénoise, dans certains villages alentours. C'est là que j'ai commencé à apprendre la musique, à en faire aussi, dans une petite association, dans un village qui s'appelle Villers-sur-Coudun. C'est vraiment à quelques kilomètres de Compiègne, une petite association tenue par des bénévoles. Je pouvais pas rêver, j'aurais pas pu rêver d'apprendre la musique dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles j'ai appris, parce que voilà, les adultes et les enfants étaient ensemble dans un esprit vraiment très bienveillant. C'était vraiment l'amour de la musique qui guidait tout le monde. Je ne sais pas comment ça se serait passé si j'avais commencé la musique dans une plus grande institution. Et ensuite, je suis allé à l'école de musique de Compiègne. Et voilà, c'est là que je me suis vraiment... J'ai commencé à vraiment me développer comme musicien. Et le Festival des Forêts, alors, je ne vais pas vous dire que j'étais là pour la première édition, hein, j'étais trop petit. Mais par contre, dans les années 2000, c'est vrai que certaines de mes premières expériences de concert, c'était au Festival des Forêts, comme auditeur. Et Bruno Henri Lavollée, le directeur artistique, m'a très tôt invité dans le cadre du off du festival, notamment autour de la fête de la musique. J'étais invité déjà à me produire, à jouer quelques pièces, voilà. Et bah, forcément, c'est particulier pour moi de revenir dans ce festival cette fois en tête d'affiche, et puis d'avoir l'occasion de faire beaucoup de choses, parce que ce soir je joue avec mes amis Alexandre et David.
Oui, j'allais y venir, le
concerto.
Oui.
Ouais. Le concerto de Beethoven avec l'orchestre de Picardie au Théâtre Impérial. Donc là aussi, le Théâtre Impérial, c'est une salle absolument magnifique, au cœur du centre-ville de Compiègne. Et c'est dans cette salle que, c'est drôle aussi, mais le premier concert symphonique que j'ai entendu, c'était avec l'orchestre de Picardie, dirigé à l'époque par Edmond Colomer, et qui jouait la 9e symphonie de Beethoven. Et c'était dans cette salle au Théâtre Impérial en 2000, je crois, que j'ai entendu mon premier concert symphonique avec cet orchestre. Alors c'est très émouvant de revenir dans cette salle, cette fois-ci, sur scène avec ce même orchestre, 25 ans plus tard.
Bien sûr, ouais. Un festival donc truffé de souvenirs, de bons souvenirs pour vous, Lucas Debargue. Ce soir, Beethoven. Demain, un récital Forêt. Je rappelle que vous avez enregistré une intégrale Forêt en 2024. Le festival vous a-t-il laissé carte blanche pour la programmation ?
Alors nous sommes venus plusieurs fois avec Bruno Rilavollée et Alexandra Letup pour discuter de ce qu'on allait faire. Évidemment, moi, c'est toujours pareil, j'ai trop d'idées. Alors je voulais faire vraiment beaucoup de choses, et puis après on a essayé de s'entendre sur une formule qui était réalisable. Il y a eu un concert de musique de chambre en trio avec mes amis les Castro Balbi. On a fait de Trio Shostakovich et deux créations, un trio Beethoven et deux créations contemporaines, dont le deuxième trio que j'aurais écrit, et un trio de Charlie Mandon. Nous avons le triplet de Beethoven ce soir. Demain, c'est un récital un peu particulier, parce que c'est pas tout un concert classique.
Oui, c'est un concert interactif, hein, c'est ça.
Voilà, alors je vais alterner entre moments de démonstration au piano et prise de parole. L'idée, c'est de traverser tout le corpus de Forêt pour piano seul, mais ça représente 80 000 de musique. Alors, je ne vais pas tout jouer, ça va durer une heure, et l'idée c'est de passer sur les trois périodes sur lesquelles voilà, les musiciens, les musicologues s'entendent pour distinguer trois moments dans la vie créative de Forêt, et de passer à travers ça en voyant tous les échos qu'il peut y avoir dans son œuvre, des échos d'autres œuvres de ses contemporains ou des influences majeures du passé. et puis de contribuer à rendre cette musique peut-être un peu plus familière aux oreilles des auditeurs avec quelques prises de parole. C'est une chose que j'ai faite à la Roque d'Anteron l'année dernière, à la salle Cortot aussi à l'occasion de la sortie de mon disque, et ça marche très très bien. De manière générale, je crois que le public adore quand les artistes disent un mot sur ce qu'ils vont jouer ou expliquent un petit peu. Alors, c'est un exercice périlleux parce qu'on peut vite tomber après dans la masterclass ou dans l'espèce de voilà dans le cours magistral ou dans l'examen musicologique où là ça devient un petit peu trop ardu. Il faut réussir à alterner voilà vraiment à jouer, donner quand même de la musique de façon directe au public, et puis il faut que les prises de parole qu'elles soient captivantes et qu'elles entrent en résonance directe avec la musique qui est jouée. Donc c'est un exercice qui est très exigeant mais que j'adore pratiquer.
Oui, voilà. Et bien
et puis le 12.
Oui, le 12, on va y venir. On a encore quelques petites secondes, Lucas Debargue. Le 12, ce sera un récital romantique avec Ravel aussi. Et une de vos compositions, malheureusement, on va devoir se quitter. Merci beaucoup, Lucas Debargue, d'avoir pris le temps de nous présenter un petit peu cette édition du Festival des Forêts et votre participation.
Je vous en prie.
Bon concert ce soir. Allez, on en profite.
Merci beaucoup.
On en profite de rien. Pour vous écouter, justement, Lucas Debargue, vous jouez Forêt. Lucas Debargue interprète la première des trois romances sans parole, romance en la majeure opus 17 de Gabriel Fauré. Gabriel Fauré qui aimait, le saviez-vous, passer l'été, surtout à la fin de sa vie, en Suisse, à Lugano, au bord du lac, toujours dans le même hôtel. L'été et ses plaisirs qui inspirèrent de nombreux compositeurs, comme un contemporain de Fauré, plus jeune tout de même, c'est Francis Poulenc, fidèle client des guinguettes de bord de Marne à la belle saison, guinguettes où il pouvait se rendre à pied depuis sa maison de Nogent. Et des guinguettes, Poulenc aime l'ambiance, les assiettes de frites et les balmusettes.
Belle source, je veux me rappeler sans cesse qu'un jour guidé par la métier, ravi, j'ai contemplé ton visage, mon déesse, perdu sous la mousse à moitié.
Une partie de campagne estivale du côté de chez Poulenc avec cet air champêtre extrait des airs chantés par la soprano Ellie Hamelin et le pianiste Dalton Baldwin. Voilà qui nous amène à 7h50, c'est l'heure du jeu de l'été sur France Musique. Et à gagner ce matin, un disque Vivaldi, Les Quatre Saisons et La Folia par le Concert de la Loge et Julien Chauvin, un disque Alpha. Pour gagner, il vous suffit de répondre à la question qui va suivre, y répondre correctement bien sûr, en nous écrivant à musiquematin@radiofrance.com. N'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées. La question, la voici. La Folia, c'est une danse populaire espagnole très en vogue dans l'Europe baroque. Plusieurs compositeurs, dont Vivaldi, ont écrit des folias, souvent pour violon. En voici une, sans doute l'une des plus connues, mais saurez-vous reconnaître son compositeur ? La violoniste Elisabeth Seuthen-Schneider interprète le début de La Folia, mais de qui ? Vous avez la réponse ? Un mail à musiquematin@radiofrance.com. Quant à nous, on poursuit notre matinée en savourant un extrait du disque à gagner, Vivaldi par le Concert de la Loge. Est-il besoin de le présenter, le presto de l'été, les quatre saisons de Vivaldi par Julien Chauvin et le concert de la Loge. Il est 7h54 sur France Musique, on est en été, on reste en été, mais côté chanson française avec les souvenirs de jeunesse et de bord de mer d'une certaine Anne Sylvestre.
Les amis d'autrefois, s'ils entendent ça, les amis du passé vont se rappeler. Nous n'étions qu'à peine moins vieux. Nous avions envie d'être heureux. Et s'il y avait la mer, s'il y avait le vent, un ciel toujours couvert, et puis nos 20 ans, c'est pour une aventure que nous inventions. plus la mer était dure et mieux nous vivions. Puis quand au soir tranquille on se retrouvait, magique et facile, cet air nous berçait. Oh, souvenez-vous-en, m'oubliez pas trop. J'ai glissé nos 20 ans dans ces quelques mots. Croyez-vous qu'on oublie son cœur? Avec vous, j'ai compris le bonheur, nos rires, nos folies. Sur un fond de ciel, notre île était jolie, la mer était belle. Nous avions encore l'âge d'aimer pour de vrai. Et de tous ces naufrages, nos cœurs se riaient. Mais Dieu, que c'est dommage, vous avez grandi. Vous n'êtes plus sauvage que le samedi. Mes amis d'autrefois, nous voici au sec. Nous rêvons quelquefois de l'île de Renec. Il fallait naviguer sans plus. Si j'avais su, je m'y serais noyé. Pour ne pas vieillir, pour ne jamais changer, pour n'en plus partir. Mes amis que j'appelle, mes amis perdus. Dieu que la mer est belle, quand on navigue plus. Oh, que la mer me manque, que la mer est loin. Oui, la mer me flanque, un fameux coup de chien. Les amis d'autrefois, s'ils entendent ça, les amis du passé vont se rappeler. La 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 la.
Les amis d'autrefois, Anne Sylvestre qui évoque ses 20 ans avec tendresse. À 20 ans justement, on est invincible. En tout cas, Félix Mendelssohn, 20 ans en 1829, est inspiré. Le début du troisième mouvement Allegro de la symphonie pour cordes numéro 12 de Félix Mendelssohn. L'orchestre symphonique de Heidelberg était dirigé par Thomas Fay.
Raphaël Pichon aux sources de Bach, une saga musicale France Musique.
Arnstadt vit à travers la figure de Jean-Sébastien Bach. Il y a sa maison qui est transformée en musée, cette fameuse église où il était organiste qui s'appelle aujourd'hui l'église Bach, avec un très 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 bel instrument.
On va voir ce grand orgue, ce monument, qui va sans doute être très impressionnant.
Les sagas musicales de l'été, c'est tous les jours à 9h sur France Musique et quand vous voulez, sur l'appli Radio France.
France Musique, c'est l'été.
France Musique, il est 8h dans quelques secondes, c'est l'heure du journal d'Anne Fauquemberg.